Oui, nous allons maintenant faire un saut de quelques siècles en arrière, dans le temps, avec le rêve, et avec lui quitter toutes les sphères des paysages de banlieue, sordides, tels qu'ils puissent apparaître au XIXe siècle. Quitter aussi les peintures dites de style impressionniste, pour gagner un autre monde, beaucoup plus épuré, beaucoup plus pur, beaucoup plus plein de couleurs, avec le rêve. Et c'est un autre style d'image que Zola prend pour modèle. Et comme nous allons le voir, cela peut paraître étrange avec lui, mais aussi plus méconnu. Et c'est pour ça que je vais essayer de mettre en lumière tout le parallèle qu'il pourrait y avoir entre le rêve et certaines peintures flamandes. Le roman, écrit en 1888, est souvent considéré comme en marge de la production zolienne, même si le tirage à la fin du XIXe siècle est tout à fait égal ou tout au moins comparable à celui de l'Assommoir, qui est beaucoup lu. On l'a qualifié de conte bleu, n'a qu'une histoire à fond de légende et de merveilleux, empruntée à la religiosité saint-sulpicienne, qui est issue de toute la vague du mysticisme à la fin du XIXe siècle. On peut percevoir dans le rêve de réels tableaux, de style un petit peu rococo, avec des thèmes et des motifs pré-raphaélites. Mais également, d'autres peintures, d'autres styles peuvent apparaître. Zola va beaucoup plus loin en s'inspirant des arts du Moyen-Âge et de la Renaissance. Zola en ceci s'inscrit tout à fait dans le XIXe siècle, puisque depuis quelques années, le Moyen-Âge ressurgit, ainsi que le style de la Renaissance, avec toute une politique de restauration, avec un petit R issu elle-même du grand courant politique de la restauration, avec un grand R, avec la résurrection et la restauration des monuments historiques, comme les châteaux, les églises. L'impulsion a été donnée d'ailleurs avec Victor Hugo, Mérimée, et puis par la suite avec Viollet-le-Duc, et qui va fleurir jusqu'à la fin du XIXe siècle pour influencer les arts déco et l'art nouveau. Parallèlement, le renouveau d'intérêt pour le Moyen-Âge et la Renaissance amène un engouement des gens pour des collections d'objets de culte ou autres objets du Moyen-Âge dont chacun veut orner sa maison. Et Zola n'est, à cet égard, certes pas le dernier. Le Moyen-Âge est donc présent dans le roman, dans les décors, comme dans les milieux sociologiques décrits, tout autant à travers les sources documentaires qui lui servent de modèle. Puisque la ville de Beaumont se situe l'action, est construite à partir du site de Coucy-le-Château et de Pierrefonds d'une part, de même que la cathédrale est bâtie d'après Notre-Dame de Paris et Vézelay, suivant les indications architecturales de Viollet-le-Duc, où Zola a trouvé de précieuses indications. Les milieux professionnels exposés sont ceux de la broderie et du vitrail, étudiés là encore à partir d'ouvrages spécialisés qui exhumaient toutes les techniques médiévales. Quant à l'histoire, la trame se déroule avec toute l'imagerie naïve de la légende dorée, ouvrage de Jacques de Voragine, qui est à la source même du rêve d'Angélique. Zola en a d'ailleurs consulté l'édition de Jacques de Voragine, donc du VIe siècle, avec toutes les illustrations de gravures sur bois. Et cette première imagerie va lui servir pour bâtir toute une histoire de style primitif, tout autant dans la facture des personnages, mais aussi à travers tout un réseau de mots qui qualifient le fond psychologique de chacun des personnages. À titre d'exemple, je cite « Longtemps Angélique ne s'intéressa guère qu'aux images de la légende dorée, ces vieux bois d'une foi naïve qui la ravissaient. » Et à partir de là, Angélique elle-même est montrée comme une de ses gravures sur bois, je cite encore « Angélique apparut à Félicien comme une de ces vierges légendaires, des anciens micelles avec quelque chose de primitif et d'élancé dans la passion. » Mais là encore, il ne faut pas s'y tromper, Zola ne s'intéresse pas tant à ces gravures de bois, donc, qui sont vraiment les prémices du dessin dans la littérature, dans l'illustration de la littérature sacrée. Il prend comme référence d'autres primitifs qui ne sont ni français ni italiens, enfin qui sont dits primitifs, mais déjà un petit peu plus tardifs quand même, qui sont les primitifs flamands. Je cite dans le dossier préparatoire, « Le froid est la pire maladie de l'âme », probablement une citation de Tocqueville qui l'inscrit entre parenthèses, « Le charme, la nuance, la grandeur simple et parfaite unité de la composition, un croyant, le sens affectif, une sensibilité profonde, intelligente de toutes les délicatesses du cœur, la foi, la sincérité de l'artiste, et enfin, Memling et Van Eyck. Donc un style très lapidaire qui n'est qu'une note, prise à partir d'un ouvrage probablement critique et descriptif des deux peintres. Mais cette note mise dans les documents divers n'atteste aucune source livresque. Elle a été recopiée, mais aucune indication ne permet de retrouver exactement l'origine. Mais Zola s'y intéresse à plus d'un titre, non seulement par les styles des deux peintres que je viens de nommer, mais aussi en reprenant les mêmes termes pour qualifier les dons artistiques d'Angélique. Je cite encore dans son dossier préparatoire, il définit ainsi la jeune fille, foi, charme, toutes les délicatesses du cœur, sensibilité profonde. Terme qu'il va lui-même reprendre à son compte aussi, pour décrire Angélique encore une fois, je cite, certaines de ses broderies avaient tellement remué le diocèse de Beaumont qu'un prêtre archéologue et un autre amateur de tableaux étaient venus la voir en s'extasiant devant ses vierges qu'il comparait aux naïves figures des primitifs. C'était la même sincérité, donc le terme même qui était repris à partir de la note prise sur Van Eyck et Memling, c'était la même sincérité comme cerclée dans une perfection minutieuse de détails. Et si l'auteur prête à la jeune brodeuse les mêmes qualités d'artiste que les peintres flamands, il va les reprendre aussi pour lui-même afin de peindre l'histoire d'Angélique et faire les portraits. Dans l'ébauche, il fait un petit peu donc l'esquisse de son héroïne, portrait d'Angélique malade, émaciée, un Memling. Donc la ferme intention de prendre un peintre flamand comme modèle. Donc là nous avons un rapport tout à fait intéressant entre le texte et l'image. Cette fois-ci, ce n'est plus du tout le texte qui génère l'image comme illustration, mais il semblerait bien ici que ce soit l'image, le tableau, qui soit à la source du texte narratif. Ce choix peut paraître étrange, bien que délibéré, puisque les peintres flamands et hollandais ont été laissés quelque peu dans l'ombre pendant des siècles, et dépréciés jusqu'au XIXe siècle. Eugène Fromentin peut paraître comme l'un des premiers à avoir exhumé de l'oubli ce qu'il appelle ses maîtres d'autrefois, ouvrage qui a été publié en 1876. Encore une fois, je ne sais absolument pas si Zola a lu cet ouvrage, puisque aucune trace donc n'est laissée dans le dossier préparatoire, ni dans sa correspondance. Mais il est étrange de voir une correspondance entre l'atmosphère générale du rêve et certains termes que Zola emploie dans son roman, et toute l'atmosphère que Fromentin évoque d'après les tableaux de Memling. Donc je cite Eugène Fromentin, « Memling dit ce qu'il veut dire avec la candeur des simples d'esprit et de cœur, avec le naturel d'un enfant. Il peint ce que l'on vénère, ce que l'on croit, comme on y croit. Il s'abstrait de son monde intime, s'y enferme, s'y élève et s'y épanche. Rien du monde extérieur ne pénètre dans ce sanctuaire des âmes en plein repos, ni ce qu'on y fait, ni ce qu'on y pense, ni ce qu'on y dit, ni aucunement ce qu'on y voit. Imaginez, au milieu des horreurs du siècle, un lieu privilégié, une sorte de retraite angélique, dans le terme principal, idéalement silencieuse et fermée où les passions se taisent, où les troubles cessent, où l'on prie, où l'on adore, où tout se transfigure, laideur physique, laideur morale, où naissent des sentiments nouveaux, où poussent comme des lys, des ingénuités, des douceurs, une mansuétude surnaturelle, et vous aurez une idée de l'âme unique de Memling et du miracle qu'il opère en ses tableaux. » Donc, terme qui décrivent étrangement et qualifient aussi bien le climat du rêve et celui de Memling. Justement, au milieu des horreurs du XIXe siècle, ou telles les horreurs que montre Zola, un milieu clos et complètement fermé à toutes les passions, c'est exactement ce que voulaient comme éducation les Hubert, donc les parents adoptifs d'Angélique. Je m'autorise donc, de cette citation de Zola, à prendre comme référent Memling et Van Eyck pour essayer de décrypter dans le texte de Zola certaines scènes qui peuvent faire penser à des compositions picturales des peintres flamands. Tout d'abord, deux motifs qui apparaissent dans le texte, Sainte Agnès comme modèle d'Angélique et Saint-Georges pour Félicien. Bon, toute la peinture sacrée des 14e et même avant 13, 14 et 15e siècles ont souvent représenté les saints, et notamment Saint Georges, qui est véritablement le modèle de la chevalerie, un ordre conquérant, notamment avec la figure de Saint Georges terrassant le dragon, qui apparaît dans le vitrail du rêve, notamment de la cathédrale de Beaumont dans le rêve. Quant à Sainte Agnès, les critères esthétiques selon lesquels elle est peinte, brodée par Angélique, sont identiques à ceux qu'utilisent les peintres flamands et identiques également à ceux que va employer Zola pour dépeindre Angélique. Je n'ai pas le... Alors je vous mets devant les yeux cet exemple de même ligne. Bon, explicitement, Zola n'a jamais donné aucune indication pour un tableau quelconque, mais simplement que pour que vous ayez devant les yeux l'exemple de la Vierge, avec ses traits purs et lisses, l'abondante chevelure rondée, et pour retrouver l'incarnation littéraire, d'abord dans Sainte Agnès, d'ailleurs dans les tableaux qui étaient peints exactement sur les mêmes critères, puis ensuite Angélique. Je cite, « Angélique avait brodé les petites mains et les petits pieds, les seuls coins de nudité blanche qui sortaient de la royale chevelure d'or. Elle terminait la phase d'une délicatesse de lys où l'or apparaissait comme le sang des veines sous l'épiderme des soies. Agnès, du col aux chevilles, se vêtait ainsi d'un ruissellement de cheveux d'or. Le flot partait de la nuque, couvrait les reins d'un épais manteau, débordait devant, par-dessus les épaules, en deux ondes qui, rejointes sous le menton, coulaient jusqu'aux pieds. Une chevelure de miracle, une toison fabuleuse, aux boucles énormes, une robe tiède et vivante, parfumée de nudité pure. » Et caractéristiques du dessin qui sont mises encore en évidence par les paroles de Félicien et d'Angélique qui échangent sur la facture du dessin, le front très haut, n'est-ce pas? Oui, très haut, et pas une ombre, comme dans les miniatures du temps. Et à un second degré, Zola reprend donc les mêmes critères iconographiques à travers les mêmes termes, pour peindre le portrait d'Angélique à la façon d'Amélie d'Avanec. Dans l'esquisse que constituent les notes du dossier préparatoire, il écrit ainsi pour Angélique, « Blonde dorée avec des yeux couleur de violette, le visage un peu allongé, très délicat et très pur. La beauté est surtout de l'attache du col, un peu longue, sur des épaules tombantes, fines et sans maigreur. Les mains et les pieds, les mains surtout, charmantes. Comme toilette, très simple, claire, unie et chaste. » Bon, évidemment, la toilette d'Angélique n'a rien à voir avec les lourdes draperies par lesquelles les flamands peignent les vierges ou les saintes, mais on retrouve tout à fait la chevelure ondée et blonde, très fournie, très bouclée, et le visage au front très haut, bombé, et avec à peine un trait esquissant les sourcils. Ainsi, si Zola prend pour modèle de son héroïne les vierges des peintres flamands, il pourrait peu paraître naturel d'essayer de retrouver dans les compositions des attitudes qui fassent songer à des annonciations, bien que Zola, encore une fois, n'ait mentionné nulle part cette intention explicite. Mais les mises en situation et les gestes des personnages nous semblent absolument évidentes. Il s'agit notamment des deux scènes nocturnes où Félicien vient rendre visite à Angélique dans sa chambre, au chapitre 7 et 12, placée sous le signe de l'aveu, annonce d'un amour accepté et réciproque, avec le oui d'Angélique. Et vous allez voir que par les attitudes des deux héros, la jeune fille a exactement les mêmes gestes que la Vierge et Félicien que l'ange. Je cite, « Angélique se leva, s'habilla, une robe blanche simplement. Elle ne noua même pas ses cheveux qui vêtirent ses épaules. Ses pieds restèrent dans ses pantoufles. Elle s'était assise. » Donc, attitude et apparence classiques des vierges. Bon, je n'ai pas trouvé de diapositive représentant une annonciation de même ligne où la Vierge apparaît dans un vêtement blanc absolument, sans aucune draperie de couleur, et avec ses longs cheveux dénoués sur les épaules. Détail intéressant, Zola nous dit ses pieds restèrent nus dans ses pantoufles. Or, dans le langage de l'iconographie classique, il était d'usage que la Vierge ait les pieds chaussés. Et à ce propos, dans l'ouvrage même qui a servi de base à Zola pour décrire la broderie, un ouvrage documentaire d'Ernest Lefébure, qui notait à propos de la chasuble de Nintré, qui montre Marie assise en majesté, les pieds chaussés comme le veut l'iconographie. Donc il se peut que Zola ait eu cette note sous les yeux au moment de l'écriture de son texte. Quant à Félicien, son attitude évoque l'ange, respectueux devant celle qui vient visiter et à qui vient apporter son message. Je cite, « Lui, à genoux sous la lune, il joignit les mains. Félicien était à ses pieds, il avait marché sur les genoux jusqu'à elle. » Et dans la seconde visite nocturne, où Angélique est agonisante et n'apparaît plus que comme une statue, Félicien s'agenouilla, s'abîma dans une contemplation navrée. Elle avait la beauté des seins délivrés de leur corps. Il en était ébloui et désespéré, dans un saisissement qui l'immobilisait, les mains jointes. Donc facture très hiératique, très frigée, qui peut faire de Félicien donc comme une sorte de succédané de l'ange. Il est intéressant de retrouver dans ses attitudes tout le langage symbolique des gestes utilisés par la peinture sacrée. Donc non seulement Félicien comme ange respectueux agenouillé les mains jointes devant celle qu'il vient voir, mais plus frappante encore, l'attitude qui est celle d'Angélique. Puisque Félicien la retint doucement par les poignets, il lui recroisa ses mains chastes sur la poitrine. Bon, là, je n'ai pas encore non plus d'exemple iconographique, mais on peut utiliser ici la lecture qu'en fait Michael Baxandall à travers l'œil du Quattrocento qui lit dans les Annonciations 5 stades différents de la psychologie de la Vierge à l'annonce du message et qui est exprimée gestuellement. La première, je cite rapidement, qui est la conturbatio, qui exprime le trouble, symbolisé par les deux mains ouvertes et les bras légèrement écartés. Le second, qui est la cogitatio, qui est la réflexion sur les paroles de l'ange, symbolisée par les mains ramenées sur le cœur. L'interrogatio, l'interrogation, donc symbolisée par les mains ouvertes à hauteur d'épaule. L'humiliatio, qui exprime la soumission, bras croisés sur la poitrine. Et en fait, enfin, la meritatio, les deux mains, paumes ouvertes, en extase vers le ciel. Donc, Angélique, les mains chastes recroisées sur la poitrine, peut faire songer à la Vierge en pleine humilité. Bon, il est bien sûr difficile de dire si Zola avait connaissance véritablement de cette grammaire, mais manifestement, il avait certains modèles, pas forcément devant lui, mais peut-être en tête. Il n'est qu'à voir également la composition des scènes, avec le décor, le mobilier, les accessoires, pour retrouver une description évocatrice de certains autres tableaux. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Donc l'Annonciation de Van der Weyden, qui n'est ni Memling ni Van Eyck, mais ayant peint aux mêmes périodes, on retrouve absolument la même facture. Donc, vous regardez le tableau, et je lis le passage de la visite de Félicien à Angélique, et on retrouve toute cette même attitude, les décors et les accessoires. Elle passa un peignoir, se traîna jusqu'à la fenêtre qu'elle ouvrit toute grande. Puis elle s'abandonna à son fauteuil, après avoir devant elle sur la petite table relevé la mèche de la lampe qu'on laissait allumer la nuit entière. Là, près du volume de la légende dorée, était le bouquet de roses trémières et d'hortensias qu'elle copiait. Et la soie étant demeurée entre ses mains immobiles, on aurait dit qu'elle travaillait encore. La lumière pâlissait le grand lit royal, drapé de sa perce rose déteinte. Seul le coffre, l'armoire, les sièges de vieux chêne tranchaient, tachaient les murs de deuil. Donc à peu près le même mobilier, notamment avec le grand lit à baldaquin et les meubles de bois sombre. Dans l'iconographie sacrée, on représente les vierges en annonciation, soit en train de broder, soit en train de lire l'Ancien Testament. Angélique est en quelque sorte la synthèse des deux figurations, puisque sa broderie est devant elle, de même que le livre de la légende dorée, et tout comme Marie pouvait lire dans l'Ancien Testament l'annonce de la venue messianique, Angélique peut lire dans la légende dorée toute la réalisation du rêve qu'elle se forge à partir de sa lecture. En outre, la présence des fleurs qui, dans le rêve, sont des roses et des hortensias, qui ont aussi un sens symbolique dans l'iconographie chrétienne, et sacrée peuvent évoquer le bouquet de lys qui est à côté. Mais plusieurs fois dans le texte, Angélique est qualifiée elle-même de lys. J'aurais aimé pouvoir vous montrer aussi le fameux triptyque de Mérode, du maître de Flémal, que vous connaissez sans doute, qui est à mon avis une synthèse absolument étonnante de tous les thèmes qui paraissent dans le rêve, puisque le tableau central représente une annonciation, la partie gauche représente les deux figures des donataires qui évoquent singulièrement les parents d'Angélique, et d'ailleurs dans la scène finale de l'agonie de la jeune fille, Zola écrit textuellement que Hubert et Hubertine étaient agenouillés dans la position de donataires de tombeau. Ainsi qu'à droite, le volet de droite du triptyque représente une scène d'atelier, non pas de brodeur, mais celui d'un manifestement, je pense, d'un menuisier. Mais le peintre montre un descriptif minutieux et très détaillé du décor avec chacun des outils. Et sur ce point, il y a une parenté étroite encore entre l'écriture du rêve, dans la description de l'atmosphère et des décors des intérieurs, et toute la veine intimiste de la peinture, non plus flamande, mais hollandaise, mais que l'on peut déjà un petit peu pressentir dans le décor de Van der Weyden, puisque le silence et la paix même de la lumière qui effleure les cuivres à l'arrière-plan, de même sur la plume de Zola, font du décor immuable un intérieur chaleureux, d'une tiédeur ténue qui laisse deviner tous les ustensiles. On pourrait penser ici aux pages fabuleuses d'Elifort sur Vermeer, ce serait trop long de citer. On a quelquefois reproché à Zola des descriptions trop précises, des énumérations trop techniques, ce qui peut paraître le cas dans les scènes d'atelier du rêve, où tous les accessoires, tous les ustensiles pour la broderie sont catalogués et défilent dans une énumération un petit peu sèche. Mais à la lumière, justement, d'une lecture, je pourrais dire picturale, ces descriptions apparaissent comme bien plus qu'une simple énumération, puisque si l'œil les remarque, les note au passage dans le parcours qu'il fait tout autour de la pièce, c'est que la lumière a allumé un reflet et le déniche dans la pénombre de couleurs, dans la pénombre, et réveille un monde de couleurs. L'écriture, comme le pinceau d'un Vermeer, fait chanter les objets d'un trait de clarté. Donc d'une part, certains tableaux peuvent faire penser à certaines scènes peintes par Vermeer. D'une part, dans la composition des plans, avec toute l'importance des perspectives, des arrière-plans, comme des premiers plans. Alors déjà, vous pouvez voir dans le tableau de Van der Weyden toute l'échappée que l'on peut percevoir à travers la fenêtre. Et pareil, le seul point de fuite pour Angélique, c'est de regarder à l'extérieur de la fenêtre. Donc tout un tableau qui est bâti avec différentes successions de plans. Je cite, « Angélique examina la cuisine d'un coup d'œil furtif, les dalles, les poutres, les ustensiles brillants, puis son regard, par les deux fenêtres irrégulières laissées dans l'ancienne baie, alla au dehors, fouilla le jardin jusqu'aux arbres de l'évêché, dont les silhouettes blanches dominaient le mur du fond. » Puis à l'intérieur même de la pièce, avec le jeu des lumières, l'ancienne salle commune, conservée presque intacte, avec ses poutres apparentes, son dallage raccommodé en 20 endroits, sa vaste cheminée au manteau de pierre, sur les planches, les ustensiles, pots, bouilloires, bassines, datant d'un ou deux siècles, de vieilles faïences de vieux grès, de vieux étains. Mais, occupant l'âtre de la cheminée, il y avait un fourneau moderne, un large fourneau de fonte, dont les garnitures de cuivre luisaient. Il était rouge, on entendait bouillir l'eau du Coquemard. Et tout comme Vermeer s'est donné un éclat subtil, mais étonnamment présent aux objets dans une peinture, Zola se fait littéralement virtuose de la matière et de la couleur à la fois, pour lui aussi réveiller les objets de leur pénombre. Ainsi, l'atmosphère chaleureuse, tout intimiste, de la scène n'est sans doute pas due au seul effet qu'elle aurifère, mais bien pour le lecteur-spectateur, à cette tache de cuivre rouge du Coquemard. La phrase met bien l'accent sur ce rouge, cette couleur qui jaillit dans le texte, avec un relief éclatant. Il semblerait même que la couleur participe de la même puissance audible que le bruit du coquemar chauffant sur le fourneau. Il y a presque une synesthésie entre les deux. Et on pourrait presque dire donc un jeu de correspondance établi au sens baudelairien du terme, qui élève les mots au rang de métonymie et donc d'image visible par leur seule couleur. Hier, on parlait de l'évocation de l'image mentale à partir de la lecture. Et ici, par l'écriture même, on a une image à la fois mentale et aussi audible. Et ce qui donne vie réellement aux objets. Puisque je vous rappelle la facture de la phrase, il y avait un fourneau moderne à l'orge, fourneau de fonte dont les garnitures de cuivre luisaient. Il était rouge, on entendait bouillir l'eau du coquemar. Donc ce rouge éclate littéralement dans la description. Les mêmes tonalités de lumière et d'ombre sur les objets se retrouvent lorsqu'elles sont animées par une source lumineuse qui vient de l'extérieur, d'une fenêtre ou d'une porte. Les scènes d'atelier prennent ainsi avec Zola un flamboiement d'or, rappelant la même passion de Vermeer pour les éclats du jaune. Et notamment la scène d'atelier qui fait bien sûr penser à la dentelière de Vermeer. Le soleil, en tournant, se déplaçait, égayait les vieux outils, le diligent, les tourettes d'osier, le tatignon de cuivre. Et comme il gagnait les deux ouvrières, le métier où elles travaillaient flamba, avec ses enzubles et ses lattes vernies par l'usage, avec tout ce qui trottait sur l'étoffe, les canutilles et les paillettes du pâté, les bobines du soie, les broches chargées d'or fin. C'était l'heure crépusculaire. Dans l'atelier, les vieux outils, les vieux murs, tout ce qui restait là immuable, semblait dormir du sommeil des siècles. Et il en venait aussi beaucoup de fraîcheur et de calme. Un grand carré de lumière blanche, égale et pure, tombait sur le métier où se courbaient les brodeuses, avec leur délicat profil, dans le reflet fauve de l'or. Et plus loin, cela enchantait Félicien de retrouver le fin profil immobile d'Angélique, baigné de la clarté blonde de ses cheveux de cuivre, et de suivre le cheveu agile de ses petites mains souples. Donc, même position que la dentelière, la femme à l'ouvrage, avec la lumière qui arrive vraisemblablement de la droite sur le profil. Jeu de lumière plus évident encore. Voilà, avec le géographe et ce trait de lumière qui arrive directement par la fenêtre et pour illuminer simplement le profil géographe. De même qu'Angélique est plongée dans son travail, le géographe comme la dentelière sont toutes concentrées dans leur monde, dans leur rêve intérieur. D'autre part, là on pourrait faire une comparaison entre le style de Vermeer et toute la technique narrative pour, je dirais, visualiser et peindre la scène. Puisque dans les tableaux, les taches de couleurs de la matière, notamment les fils de la dentelière, ne sont que des couleurs. Le traitement pictural leur ôte véritablement leur signification de fil de couleur pour n'être plus que couleurs. Voilà. Donc les fils qui sortent du petit coussinet ou du coffre bleu sur la gauche ne sont plus que des taches, des filaments de couleurs rouges et blanches et qui vont jusqu'à l'abstraction. Ce matin, nous disions que dans certaines peintures de Zola ou des impressionnistes, certaines taches de couleurs allaient jusqu'à l'expressionnisme. Ici, il semble qu'on aille jusqu'à l'abstraction. De même en peinture et également dans le texte, par le biais de la synecdoque, les broches chargées des ors différents, le rouge, le vert, le bleu. Les chasubles revenaient continuelles avec leurs cinq couleurs. Le blanc pour les confesseurs et les vierges, le rouge pour les apôtres et les martyrs, le noir pour les morts et les jours de jeûne, le violet pour les innocents, le vert pour les fêtes, et l'or aussi d'un fréquent usage pouvant remplacer le blanc, le rouge et le vert. Bon, ici, au-delà de l'abstraction, les couleurs n'ont qu'une signification toute symbolique, mais donc ce ne sont plus des fils de couleurs, mais bien des couleurs pures, des taches de couleurs. De plus, on retrouve la même passion du jaune et de toutes ses variations. Chez Vermeer, on connaît bien sûr le fameux petit pan de mur jaune, et devant nous, l'or de l'habit de la dentelière. Et Zola, pareillement, varie avec le style sur toutes les teintes de l'or qu'Angélique utilise pour broder Sainte-Agnès. Dans les parties d'ombre, la soie cachait complètement l'or. Dans les demi-teintes, les points s'espaçaient de plus en plus et les lumières étaient faites de l'or seul, laissées à découvert. C'est l'or nué, le fond d'or que l'aiguille nuançait de soie, un tableau aux couleurs fondues. Et pour les cheveux, Angélique avait eu la même idée que Félicien, celle de ne point employer de soie, de recouvrir l'or avec de l'or, et elle manœuvrait 10 aiguillées d'or à passer, de tons différents, depuis l'or rouge sombre des brasiers qui meurent jusqu'à l'or jaune pâle des forêts d'automne. Donc des jaunes jusqu'aux ors purs, ce sont ces couleurs qui ont une présence absolue, chez Vermeer comme chez Zola. Elles sont véritablement le foyer central et le focus dans le tableau, qui irradie toute l'atmosphère chaleureuse et qui donne toute l'ambiance véritablement de la peinture et d'une scène intimiste. Alors encore une fois, Zola n'a cité que deux fois dans son dossier préparatoire les noms de Memling et de Van Eyck. En aucun cas il n'a donné d'indication sur les sources de cette idée, et de même que dans le texte final du rêve, dans le roman, aucune fois les deux noms n'apparaissent. Donc c'est simplement à partir de la suggestion de cette note du dossier préparatoire que j'essayais de confronter certaines scènes du texte avec certains tableaux flamands. Et pourquoi ce choix de Memling et de Van Eyck, même chez Zola, tel qu'il le dit dans le dossier préparatoire, finalement, à la fin du 19e siècle, on redécouvre un peu les primitifs, mais surtout Vermeer, puisqu'on s'aperçoit que les idéaux artistiques de l'époque avaient de nombreux points communs avec le type d'expression du peintre hollandais, notamment avec l'utilisation de la matière, de la couleur, l'intensité qu'elles peuvent donner et toute la recherche justement sur l'utilisation de la couleur et de la lumière. Alors maintenant, pour terminer, je voudrais simplement soulever deux points. Il aurait été intéressant peut-être de voir Zola critique des peintres flamands faire le rapprochement avec le texte du rêve. Malheureusement, à ma connaissance, il n'en existe aucune trace, aucun jugement, je ne pense pas, contrairement à Fromentin ou même Huysmans. Quant à la motivation donc de Zola, il n'avait pas explicitement de référence visuelle. Alors, est-ce que sa culture était suffisamment grande pour pouvoir remettre et redépeindre dans son texte certaines scènes qui font songer à des tableaux? Ou alors, peut-être avait-il encore dans sa nombreuse collection de tableaux qu'il avait chez lui des exemples de retables? À ma connaissance, dans le catalogue de la vente des collections Zola à sa mort, il n'avait que deux tableaux de peintres flamands, et encore du XVIe siècle, je crois. Donc peut-être que dans les collections privées ou dans les connaissances familiales, il y aura peut-être des indications. Je vous remercie.
Vous n'en allez pas. Je remercie mademoiselle Béatrice Laurent de cette exposé extrêmement riche qui met amplement en valeur le poids de l'image, de la gravure, de toutes sortes de stéréotypes picturaux et qui nous pose des questions sur l'écriture de Zola. Et je donne tout de suite la parole à ceux qui veulent poser des questions à propos de cette analyse très fouillée du rêve.
De l'Annonciation. Oui. Les Vierges de l'Annonciation, c'est un thème universel, si je puis dire, de l'art chrétien. Dans un des textes que vous nous avez lus, Zola parle de miniatures. Certaines des descriptions de Vierges que vous nous avez données correspondent parfaitement à des miniatures de l'art français. Et d'autre part, je me pose la question, pourquoi aller chercher très très loin une Vierge de l'Annonciation dans des collections étrangères ou dans des choses inaccessibles, alors que l'Aixois Zola avait pu voir l'Annonciation d'Aix, attribuée maintenant à Barthélemy d'Aix?
C'est exact, enfin, je ne suis pas historienne de l'art, ce n'est pas ma spécialité, mais il est exact que le caractère du langage iconographique est à peu près similaire dans toute la symbolique de la gestuelle parmi les Flamands, les Français, les Italiens. Simplement, je suis partie de l'idée que l'on sait cela à partir de Memling et de Van Eyck. Mais il est exact qu'il y ait une autre source dont je n'ai pas parlé. On a pu supposer que Zola ait pu s'inspirer de miniatures qu'il avait en sa possession, dans sa collection également, et probablement dans un bréviaire de Moissac du XVe siècle. Et on a pu supposer qu'il ait eu sous les yeux ces miniatures, donc vraisemblablement avec des annonciations. Mais simplement, je ne suis pas sortie du caractère flamand et hollandais, simplement à partir de cette note du dossier préparatoire. Bien sûr, je vous remercie de le corriger. Je n'avais absolument pas en tête l'annonciation d'Aix à ce moment-là et je n'avais pas connaissance.
D'autres précisions, d'autres questions?
C'est ni une précision ni rien, puisqu'on est à Aix.
Oui.
Restons-y encore une minute. Je vous signale qu'il y a un autre tableau de même type à Aix qui est le Buisson Ardent. Et qui peut-être a pu inspirer aussi Zola. En tout cas, je sais que le nom du peintre a dû l'inspirer, vous allez tous réaliser. Le nom du peintre du Buisson Ardent, c'est Nicolas Froment. Et le nom de Froment est utilisé, bien sûr, dans le patronyme des gens des évangiles. Donc je crois qu'il y a encore une filiation aixoise, peut-être aussi à ce niveau-là.
Puis on peut penser à des gravures aussi, à des illustrations, à des livres qu'il a pu avoir en main.
Oui, dans sa collection de nombreuses, oui.
Autre question, oui, monsieur Grivel.
C'est frappant que dans tous les passages que vous nous avez lus, dans bien d'autres, bien entendu, que le texte n'atteint jamais un degré de précision tel qu'on puisse avouer sans effort sa reconnaissabilité, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est d'accord.
N'est-ce pas? Quand vous disiez, on pourrait reconnaître. Alors, il y avait une armoire dans le texte, moi j'ai cherché l'armoire, il n'y a pas d'armoire, évidemment. Il y a bien entendu des meubles de bois, enfin de chêne foncé, disons, mais c'était un dressoir, c'est pas une armoire. Enfin, on est tout à fait d'accord que...
Oui, tout à fait, c'est pas au détail près.
...doit servir d'inspiratrice, mais elle ne doit jamais aller jusqu'au degré de reconnaissabilité, et c'est pour cela que chercher, en fait, l'art sous l'image qui serait un caps dans l'affaire, c'est peut-être quand même un petit peu illusoire, comme nous apprend d'ailleurs les réactions de Zola à l'illustrateur du rêve, Carlos Schwab, dont je vous ai montré des images hier, mais je n'ai pas pu le faire. On pourrait mettre ces deux dossiers, préparatoire et illustrateur, l'un en face de l'autre, pour montrer le chemin tiers que choisit Zola, qui n'est pas l'imitation, il est quand même la constitution d'une image qui lui est propre à lui. Vous voyez?
Non, c'est exact, oui. Mais l'évocation est là quand même.
Ah, encore une...
Juste une question, vous étudiez les rapports avec Bismont, qui sont beaucoup plus que Fromentin, à l'origine d'une véritable connaissance en France des primitifs flamands.
Non, je ne suis pas allée si loin, mais c'est un projet.
C'est quand même... Il y avait dans les livres de Bismont des reproductions assez parfaites, déjà par la photogravure à l'époque, qui permettent une appréciation au public, au public de cette époque. Sans aller dans les musées. Mais, un grand nombre des tableaux que vous avez montrés, même, je crois, enfin, il y a une défondatation et autres, mais il est fort probable que Zola a eu des conversations justement, je pense, à ce sujet qui l'intéressait.
Mais malheureusement, il n'y a aucune trace.
Bon, il nous reste, je joue toujours, toute petite, nous n'aurons pas de récréation.
De Michael Bach Sandal, l'œil du Quattrocento.
Alors, nous avons encore deux communications et une heure et quart. Donc 30 minutes et 30 minutes égale une heure, un quart d'heure de discussion. Moi, je veux bien que nous sortions, mais il va falloir après aller très vite. Alors, Jean-Pierre Ducadine pense qu'il vaut mieux pas sortir et tout de suite embrayer sur deux communications qui ont trait toutes les deux à l'affaire Dreyfus, que nous pourrions écouter l'une après l'autre et les questions les poser ensuite. Oui. À moins que vous teniez absolument à sortir, mais ce n'est pas sage.
Voilà.
Bon, allez.
Et simplement, je me permets de signaler que demain matin, il y aura non pas quatre communications, mais cinq communications, et que la première communication, il suffit d'ajouter aux quatre communications existantes et de façon précédente, la communication de Jean-Max Gueux qui travaillera sur l'illustration des éditions d'Émile Zola aux États-Unis.
Et Norman. Oui, oui, monsieur Norman Klibat, s'il vous plaît. Il n'est pas là ?
Si.
Ah, voilà. Une demi-heure.
Si.
Vous allez là-bas ?
Oui, presque là. Voilà. Vous préférez là.
Bon. On a besoin de...
D'accord. Bien, monsieur Klibat est le conservateur en chef du Musée juif de New York et va nous parler de l'image d'Émile Zola dans le journal Psst pendant les années de l'affaire Dreyfus. Psst. Monsieur ?
Bon,
alors, il faut qu'il aille debout.
Mais c'est,